À l'occasion de l'Euro, nous parlons football. Car derrière ce sport le plus populaire du monde se cachent parfois des affaires sensibles qui ont marqué l'histoire d'un pays, d'une génération ou d'une institution. La FIFA a pour slogan « For the game, for the world », pour le jeu, pour le monde. Depuis sa création, la Fédération internationale de football, genre forte avec les faibles et faible avec les forts, a parfois lié son histoire à un pouvoir autoritaire. En 1934, déjà, elle offre une formidable vitrine au dictateur italien Benito Mussolini. Fascisme, propagande et sport seront les maîtres mots de cette édition qui voit la victoire de l'Italie comme espérée par le Duce, qui, dit-on, a invité l'arbitre de la finale à sa table la veille du match sans que la FIFA n'y trouve rien à redire. En 1978, c'est en Argentine, écrasée par le joug de la junte militaire, que flottent les fanions de la FIFA. Alors, durant plusieurs mois, en France et dans plusieurs pays du monde, on s'interroge. Faut-il aller jouer au foot pendant un mois comme si de rien n'était, dans ce pays où la torture quotidienne est pratiquée dans un centre de détention situé seulement à deux pas d'un grand stade? Comme en 1936, pour les JO de Berlin, une campagne de boycott initiée en France est lancée contre cette Coupe du Monde. Pendant plusieurs mois, la rue gronde. Les éditorialistes et les politiques prennent parti. À la fin, aucun des pays qualifiés ne restera chez lui. Mais que reste-t-il de cette compétition? Comment le pouvoir argentin a-t-il profité de cette coupe pour conforter son pouvoir? Et quel a été l'écho réel de la campagne de boycott? Pour en parler avec nous, après le récit, nous recevons Paul Dietschy, professeur agrégé d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté, auteur d'une histoire du football et de l'histoire politique des Coupes du Monde. Il nous attend à Besançon. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attachée de production, Léa Dupouy-Henquin et Lucille Valéry. Programmation musicale, Muriel Pérez. Coordination, Christophe Barrère. Comédien, Philippe Pierrard. Réalisation, Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir donc pour ce grand rendez-vous, rendez-vous très attendu, tant attendu depuis de longues années, puisque ce soir, le football français, je crois, se trouve face à son destin et face aussi à 11 Bulgares décidés, une fois de plus, à barrer la route de la Coupe du Monde à l'équipe de France de football. C'est en effet le dernier match du groupe 5 et ce soir, c'est le vainqueur du match, si c'est la France, c'est la Bulgarie, si elle a réussi à gagner ou si elle a fait match nul, qui empochera le 11e billet, puisqu'il y a déjà 10 pays qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde qui se jouera du 1er au 25 juin en Argentine.
16 novembre 1977, stade du Parc des Princes, Paris. Dans le stade, seuls les plus anciens se souviennent de la dernière qualification de la France pour cette compétition. C'était 12 ans auparavant, en 1965, contre le Luxembourg. À l'époque, Michel Platini n'avait que 11 ans et jouait encore dans le petit club local de la SJEF. Ce soir-là, quand les 11 bleus choisis par Michel Hidalgo entrent sur la pelouse, toute une partie de la France a les yeux rivés sur l'écran de télé.
Voilà, il pleut sur le Parc des Princes. Monsieur Corbert vient de donner le coup d'envoi et le premier coup franc en faveur des Bulgares pour une faute de Rio sur l'avant-centre Stamkos.
Il faut attendre la 38e minute pour voir la route vers l'Argentine se dessiner. Michel Platini tente sa chance de loin. Le gardien repousse. Didier Six tire le corner. Marius Trésor réceptionne, transmet à Dominique Rocheteau qui d'un pointu au 6 mètres envoie la balle au fond des filets. Dès le retour sur le terrain, les Français gardent la main sur le jeu. À la 73e minute, le parc chavire de nouveau. Après un dégagement raté du gardien bulgare, Marius Trésor récupère le ballon. Maxime Bossis d'abord, puis Didier Six qui avance, provoque et remet dans l'axe où Michel Platini est seul. D'une frappe tendue aux 25 mètres, le numéro 10 français marque en pleine lucarne. Malgré un but bulgare, à la 85e minute, la France poursuit l'offensive. Et à la 89e, les hommes de Michel Hidalgo valident officiellement leur ticket pour l'Argentine.
Guillou, Lacombe, s'il arrive à temps, ouais. D'Alger. Ouais!
Fin du match, le parc se vide. Dans les tribunes du stade, à côté des fanions abandonnés, on découvre des tracts jetés au sol sur lesquels on peut lire « Argentine 77, champion du monde de la terreur ». Tract signé le COBA. À 11 000 km de là, à Buenos Aires, au même moment, devant les portes du ministère, des centaines d'hommes et de femmes attendent. Depuis le 24 mars 1976, jour de la prise du pouvoir par le général Videla et sa clique, dans tout le pays, des opposants au régime et leurs enfants disparaissent. Après quelques semaines, beaucoup d'entre eux sont retrouvés morts dans des terrains vagues ou déposés devant leurs anciennes habitations. Pour les autres, dont on n'a plus de nouvelles, seul le général en charge du ministère de l'Intérieur délivre des autorisations pour visiter les morgues et constater ou non le décès des disparus. Parmi ces victimes, dont les corps ont été retrouvés, il y a Anna Maria Isola. C'est pour elle que l'écrivain, peintre et intellectuel Mara Kalter lance le 19 octobre 1977 un appel dans le journal Le Monde intitulé « Pour lutter contre la barbarie ». Le texte se termine par ces mots.
En 1936, nos parents n'ont pu empêcher les sportifs de se rendre aux Jeux Olympiques de Berlin et de faire le salut nazi devant un Hitler ébahi. Deux ans après, ils assistaient impuissants à la nuit de cristal. Lançons ensemble un appel à tous les sportifs et à leurs supporters qui doivent se rendre en Argentine. Refusez de cautionner par votre présence le régime aussi longtemps qu'il n'aura pas libéré les prisonniers politiques et arrêté les massacres. Lançons un appel à la presse mondiale pour qu'elle reproduise cet appel et à tous ceux qui le liront pour qu'ils manifestent leur appui. Si nous ne gagnons pas cette bataille, la barbarie l'emportera.
Avec cette victoire contre la Bulgarie, désormais la question se pose aussi pour les joueurs, la presse et le monde politique français. L'équipe de France de football doit-elle aller jouer en Argentine, là où depuis 1976 on tue, on torture, on assassine? Que se passe-t-il à l'ombre des stades?
24 mars 1976, 3h15. Un communiqué officiel des militaires annonce à la radio nationale que la présidente Isabel Perón a été déposée. La junte indique qu'elle s'engage à respecter tous les accords internationaux conclus par la République argentine et qu'un gouvernement va être formé.
Ce 24 mars 1976, sur les téléscripteurs des médias du monde entier, l'annonce que l'on attendait depuis plusieurs jours tombe. L'armée est de retour au pouvoir. Il s'agit du sixième coup d'État en un peu moins de 50 ans. Le dernier datait de 1966. Il était le fait du général Onganía. C'est précisément cet officier qui avait reçu 9 jours après son coup de force la bonne nouvelle venue de Londres. Malgré l'instabilité politique et la violence qui en découlait, la Coupe du Monde de 1978 était bien prévue en Argentine. 10 ans plus tard, c'est à un autre général, Jorge Rafael Videla, que revient la charge d'organiser cette compétition. Austère, rugueux, il légitime sa prise de pouvoir pour, dit-il, défendre la civilisation occidentale et chrétienne contre la subversion communiste et ses guérilleros. Tout est dit, et notamment l'alliance habituelle de l'Église catholique avec les régimes fascistes. Pour Videla et sa croisade, la Coupe du Monde est un héritage heureux dont il souhaite faire l'œuvre culminante de sa reconstruction nationale, mais aussi une formidable vitrine offerte aux yeux du monde. Pour cela, le pouvoir achète les services de l'une des plus importantes sociétés américaines de communication et de relations publiques, Burson Marsteller. Après lui avoir remis un premier rapport de 140 pages sur l'image de l'Argentine à l'étranger, la société propose à la junte militaire un plan qualifié de « pénétration de journaux, revues et journalistes d'avant-garde », ça ne s'invente pas, et un programme de réception de ces 10 journalistes avant et pendant la compétition. L'objectif est clair, faire taire les opposants exilés. Et pour cela, tous les moyens financiers sont mis en place. Le 7 octobre 1977, le général en charge de l'organisation de la Coupe du Monde annonce une première estimation du déficit, autour des 400 millions de dollars. Peu importe. L'important, ce sont les dizaines de milliers de touristes qui vont affluer et surtout la visibilité de l'Argentine pour 1,5 milliard de téléspectateurs. Quelques semaines plus tard, l'estimation du déficit budgétaire de l'opération est revue à la hausse et passe à 700 millions de dollars, soit la moitié du solde de la balance commerciale de l'Argentine. Mais tel est le prix à payer pour que le spectacle et les chants des supporters étouffent ceux des prisons et des centres de torture. Pourtant, malgré cette campagne de communication interne et externe, des voix s'élèvent contre l'Argentine. En France, Mara Kalter joue les lanceurs d'alerte. Les Français ont découvert cet homme en 1976 avec la sortie de son livre « Le fou et les rois » dans lequel, du haut de ses 40 ans, il raconte sa vie d'exil et de rencontres. Né juif à Varsovie en 1936, il a connu la Seconde Guerre mondiale, le ghetto, la fuite vers l'Est, la France, puis l'Argentine pendant les années 50. Il a été comédien, mime, il est désormais peintre, professeur et écrivain. En octobre 1977, il publie une tribune dont on a entendu l'extrait où il propose pour la première fois l'idée d'un boycott. Une semaine après la qualification de la France pour la Coupe du Monde, il s'en explique au micro de France Culture.
Aujourd'hui, j'ai lancé encore un appel pour l'Argentine. Car on vient de tuer une cousine à moi, on tue mes amis. Ce qui se passe là-bas, c'est terrible. Et j'étais bouleversé par l'indifférence dans laquelle ça se passe. Et j'ai lancé un appel pour le boycott de la Coupe mondiale de football en Argentine. Ça veut dire, sans me faire beaucoup d'illusions, je ne vais pas d'ailleurs boycotter en vérité, mais je voudrais, au fond, sortir les sports de ces tabous politiques dans lesquels ils se trouvent, montrer que même les sportifs peuvent sauver, en posant des conditions avant d'aller en Argentine, sauver les vies humaines.
Le 15 décembre 1977, le COBA, Comité pour le boycott de l'organisation de la Coupe du Monde en Argentine, tient sa première conférence de presse et annonce l'existence sur tout le territoire français de plus de 200 comités, ainsi que le soutien d'organisations militantes comme la Fédération de l'Éducation Nationale ou le mouvement breton Football et Progrès, dont on connaît le poids sur la scène géopolitique mondiale. À l'étranger aussi, et plus sérieusement, l'idée du boycott trouve un écho favorable. Après la Suède, des comités voient le jour en Italie, en RFA, en Espagne. Ils se nomment comité de boycott, de soutien aux victimes, ou encore contre la répression en Argentine. Derrière chacune de ces dénominations, dans chacun de ces pays, inconnus ou célébrités ont tous le même objectif, pousser les regards au-delà des stades. Un jour avant la première conférence de presse du COBA, on apprend par l'AFP la disparition de sœurs religieuses françaises des missions étrangères. La première s'appelle Alice Daumont. Nommée sœur Alicia, elle a été enlevée le 8 décembre devant les portes de l'église. La seconde s'appelle Renée Duquet, dit sœur Léonie, enlevée, elle, devant la paroisse Saint-Paul deux jours plus tard. Malgré les protestations du consul général de France à Buenos Aires, Paris n'a aucune nouvelle de ces deux ressortissantes. Deux noms à rajouter à l'interminable liste des disparus. En 1978, l'ONG Amnesty International estime à 6 000 le nombre d'exécutions, 8 000 le nombre des prisonniers et 15 000 celui des disparus. Le 27 avril 1978, dans l'émission Le Téléphone Sonne sur France Inter, un couple franco-argentin raconte le climat de terreur qui règne dans les rues de Buenos Aires.
Vers 2-3 heures du matin, on a entendu des bruits et des personnes armées en civil sont entrés, ils ont tiré des coups de feu dans la porte, ils sont entrés. Et ensuite, on a été mis tous les quatre les mains en l'air. Mes beaux-parents et moi, nous avons été emmenés dans la salle de bain. Plus tard, j'entendais mon mari qui criait, qui était frappé.
De 2h à 5h du matin qu'ils sont restés, moi j'avais les yeux bandés, j'avais les menottes. Et ils m'ont torturé l'électricité avec la fameuse gégène, surtout les parties génitales. Pendant l'interrogatoire, j'étais frappé en plus avec des bâtons ou je sais pas quoi, et interrogé en français, ce qui m'a drôlement surpris par quelqu'un qui connaissait très bien Paris, qui me demandait quelles étaient mes activités. On se trouvait en voyage de noces à Buenos Aires, donc en faisant du tourisme, et on était mêlés de rien. Les voisins ont tout entendu, mais tout le monde a peur. Tout le monde a peur des représailles. Mais personne n'a osé téléphoner à la police ou qui que ce soit. En Argentine, aucun médecin voulait me soigner. Tout le monde avait peur. J'ai dû arriver en France pour qu'on commence à subir un traitement. Même les médecins sont persécutés. Les hôpitaux, c'est contrôlé par les militaires.
Mais ces hommes qui vous ont torturé, vous n'avez jamais vraiment su qui c'était ?
Jamais su, ni jamais cherché à comprendre, de peur de représailles. Mon père, qui habitait l'Argentine depuis 1936, est parti avec une valise de 20 kilos.
Et il est parti précipitamment après cette torture ?
On a pris l'avion en vitesse.
C'est-à-dire, quelques heures après ?
Quelques jours après, sans savoir si mon frère était vivant ou mort. On a appris que quelques mois après, qu'il était vivant et qu'il était dans une prison militaire.
Dans la presse et les médias audiovisuels, les témoignages de réfugiés ou de rescapés se multiplient. Et les partisans du boycott se font de plus en plus nombreux. Après la remise d'une pétition de 50 000 signataires, le comité organise à la Mutualité à Paris une grande soirée-événement intitulée « 5 heures pour l'Argentine ». Une soirée qui rassemble tout le gotha de la gauche française et des ONG. Intellectuels, artistes, politiques et réfugiés prennent la parole. L'Argentine devient presque un sujet d'actualité nationale, si bien que la question du boycott devient un thème prégnant dans les entretiens, comme lors de ce Radioscopie avec Yves Montand.
Et vous estimez qu'il faut y aller en Argentine, tout de même?
C'est un grand problème. Personnellement, par réaction personnelle, je dirais non. Et je m'excuse s'il y a des joueurs de football qui m'entendent là, je tiens à leur dire que j'adore le football comme le vrai beau football. Et que c'est vrai qu'il y aura une sorte de frustration si au cas on disait on ne va pas en Argentine. Mais si nous devons y aller, alors pensez-y, je vous en demande qu'ils y pensent de temps en temps. Qu'ils pensent de temps en temps que les coups de pied quand on a un ballon, on les donne aux testicules d'un homme.
Côté politique, seul le Parti Socialiste, par la voix de Lionel Jospin, est favorable à cette option et propose même le transfert de la compétition dans un autre pays. Au sein des autres forces politiques, Parti communiste compris, on ironise sur la possibilité de refuser de jouer une compétition dans un pays où des problèmes de liberté, de droits de l'homme se posent. Sinon, comme le déclare Georges Marchais, on risquerait à l'Est comme à l'Ouest de ne pas aller dans beaucoup de pays. Le président Valéry Giscard d'Estaing et son gouvernement, eux, restent silencieux. L'arrivée de la junte n'a pas mis à mal, en tout cas, les relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays, bien au contraire. Les liens se sont même renforcés, notamment dans le domaine des ventes d'armes. Bien, alors au sein de l'équipe de France, qu'en pense-t-on? Eh bien, le 17 mai, lors de l'émission Questions d'actualité, la question est posée à Michel Hidalgo et au joueur Henri Michel.
Alors, première question, est-ce qu'au sein de l'équipe de France, le débat sur l'Argentine a eu lieu ou vous l'avez escamoté parce qu'il ne se posait pas?
Il n'y a pas eu un débat, il y a eu une petite discussion. On a voulu quand même évoquer tout ce qu'on nous disait autour de l'Argentine et surtout parce qu'on nous écrit beaucoup en nous demandant de faire ceci ou de faire cela. Donc on a été obligé de prendre une position commune.
Est-ce que c'est la première fois que vous êtes confronté avec un problème de genre?
Oui, c'est bien la première fois. Nous sommes allés dans beaucoup d'autres pays où il y avait également des régimes qui ne correspondaient pas aux nôtres et jamais on nous a demandé d'avoir une action quelconque contre ce régime.
En tant que joueur, ça vous intéresse pas ce débat-là?
C'est-à-dire, si, on est concerné, mais à partir du moment où on pratique un sport comme le football, je crois qu'il faut surtout essayer de dissocier les deux choses, que ce soit la politique et le sport. Et c'est ce qu'on essaye de faire au sein de l'équipe de France.
Disons que les footballeurs reconnaissent les États et pas les régimes, quoi.
Si vous voulez.
Est-ce à la suite de cette intervention qu'une incroyable tentative de prise d'otage du sélectionneur est imaginée? En tout cas, le 23 mai 1978, à la veille du départ pour l'Argentine, la France aurait pu perdre son entraîneur. Mais oui, les faits se déroulent sur la route, entre Saint-Savin-de-Blaye et la gare de Bordeaux. Michel Hidalgo est au volant de sa voiture avec sa femme. Aux abords d'un bois, une Citroën GS blanche le double et l'oblige à s'arrêter. Un homme sort, pointe son arme. Après quelques palabres, le sélectionneur arrive à se désarmer. Les curieux kidnappeurs s'enfuient. Quelques heures plus tard, un communiqué de presse est envoyé au journal Le Monde au nom des agresseurs qui, selon leur formule, ont le regret d'annoncer l'échec de la tentative de détournement de Michel Hidalgo. Dans la foulée, le comité pour le boycott se désolidarise de cette action étrangère à sa campagne, dit-il. Malgré cette mésaventure, Michel Hidalgo rejoint l'équipe de France qui s'envole donc le lendemain pour l'Argentine. Le même jour, dans plusieurs villes de France, des partisans du boycott battent le pavé et bravent les fumigènes. Sur les pancartes, on peut lire des slogans tels que « Pas de foot entre les camps de concentration, Mondial hors d'Argentine » ou encore « Allemagne 1936, Argentine 1978, pas de sport sous les dictatures fascistes » comme ici, à Dijon.
20h30 hier, le centre-ville. Ça fait maintenant une heure que la place d'Arcy a changé de visage et que manifestants et gardes mobiles s'affrontent dans les nuages de fumée des lacrymogènes. C'était à prévoir. Le rassemblement contre le Mundial était destiné à dégénérer. La préfecture avait interdit cette manifestation. Or, les communiqués d'appel aux manifestants continuaient à tomber sur les bureaux de presse.
On manifeste contre l'organisation par l'Argentine de la Coupe du Monde de football.
Alors qui est avec vous là?
Qui est avec nous? J'en sais rien. Tous les gens qui font partie du COBA, je ne sais pas exactement le nombre des... Les associations qui en font partie. Ce que je peux dire, c'est que le syndicat des cheminots CFDT a appelé à la manifestation, de même que le SGEN. Autrement, c'est tout ce que je peux dire. Les autres, le COBA, je ne sais pas exactement qui il y a dedans.
Deux jours plus tard, le 26 mai, un ancien détenu de l'école mécanique de la marine, Horacio Domingo Maggio, affirme avoir rencontré les deux religieuses françaises dans cette prison peu après leur arrestation. Dans cet entretien, il déclare que celle-ci était vêtue d'une robe ordinaire. Elles avaient l'air d'avoir été maltraitées, semblaient très affaiblies. Pour aller aux toilettes, deux gardiens devaient soutenir l'une d'entre elles qui ne pouvait se tenir debout. Je lui ai demandé si elle avait été torturée. Elle m'a répondu oui, et elle m'a raconté qu'on les avait attachées nues sur un lit et qu'on leur avait appliqué la picana sur tout le corps, c'est-à-dire la torture à l'électricité. L'école mécanique de la marine se situe à 800 mètres du stade de River Plate qui, le 1er juin 1978, accueille le match d'ouverture entre la République fédérale d'Allemagne et la Pologne. Combien seront-ils à croupir dans ces cellules alors qu'un milliard de téléspectateurs regarderont le coup d'envoi de la Coupe du Monde ?
Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est un jour de fierté pour notre pays, la nation argentine. Indiscutablement, la confrontation sportive qui va avoir lieu aujourd'hui démontre qu'il est possible, de nos jours, d'avoir confiance dans l'unité et la diversité du pays.
Unica forma
seul moyen d'obtenir la paix. C'est pour cela que je déclare officiellement ouvert ce championnat mondial de football. 1978. Merci beaucoup.
...80 000 spectateurs et environ un milliard de téléspectateurs assistent ce 1er juin 1978 à l'ouverture de la 11e Coupe du Monde de football. Pour conclure ce spectacle, la parole est donnée au général Videla qui dirige ce pays depuis maintenant 2 ans. Après 6 mois de polémiques et de controverses autour de l'appel au boycott de la compétition, la Coupe du Monde a bien lieu. Pour ce premier match, la Pologne et l'Allemagne de l'Ouest se séparent après un match nul. Les Français, eux, se préparent à l'Hindu Club, situé dans la banlieue de Buenos Aires, dans le même hôtel que les Italiens, qu'ils s'apprêtent à affronter le 2 juin sur le terrain de Mar del Plata. Pour ce premier match, l'entame des Bleus est parfaite. 37 secondes après le coup de sifflet, Bernard Lacombe reprend de la tête le ballon centré de Didier Six. Après, plus rien. Les Italiens, deuxième puissance mondiale du football à l'époque, égalisent puis prennent l'avantage. Dans l'autre match du groupe, l'Argentine l'emporte facilement contre la Hongrie. Le 6 juin, les Bleus jouent contre le pays organisateur. Alors que toute la France se prépare à suivre cette rencontre, sur France Inter, on décide de faire entendre les cris à l'ombre des stades. Pendant une heure, dans le téléphone sonne, l'ambassadeur d'Argentine répond aux questions des journalistes et des auditeurs concernant justement la torture.
Bien, monsieur l'ambassadeur, vous regrettez certaines accusations, ce que vous considérez comme des campagnes de dénigrement contre votre pays. Pourtant, malgré tout, il y a des faits qui sont quand même troublants. Pourquoi votre pays, pourquoi les autorités policières n'autorisent-elles pas les journalistes présents lors de cette Coupe du Monde à visiter un certain nombre d'établissements? Je pense par exemple à l'école de marine, énormément de journalistes ont essayé de visiter, ils en ont tous été interdits. C'est un des hauts lieux, paraît-il, de la torture faite par les autorités en place en Argentine. Pourquoi, si vous avez la conscience tranquille, ne pas laisser les journalistes visiter cette école de marine? Comme ça, les bruits cesseraient de même.
L'école de marine, c'est l'école mécanique de la marine, c'est l'équivalent à l'école de mousse d'ici en France. Elle est placée au centre de Buenos Aires, entre deux autoroutes, très près de l'aérodrome de la ville de Buenos Aires, et dans une banlieue qui est complètement résidentielle. Je pense qu'on aurait trouvé des meilleures places pour torturer, si c'est comme on dit qu'on torture à l'école mécanique de l'armée.
Non, monsieur l'ambassadeur, l'école de mécanique de la marine est le camp de détention illégale et de torture le plus grand en Argentine, donc le plus meurtrier. Sur les 5000 personnes qui y sont passées, seules 200 ont survécu. Derrière ces murs, c'est un huis clos de la terreur où vivent tortureux et tortionnaires. On y trouve des appartements pour les officiers, une chapelle, une infirmerie et une maternité pour les prisonnières enceintes. Au sous-sol, il y a les salles de torture et les cellules. La plus grande est un dortoir nommé la capucha, la cagoule. Pieds et mains liés, une cagoule sur la tête donc, les prisonniers attendent la prochaine séance de torture ou le départ pour un vol de la mort. Pour faire disparaître les suppliciés, on les met à bord d'hélicoptères, puis on les jette vivants dans l'estuaire de Rio del Plata. Ce 6 juin 1978, sur la route du River Plate, le quart des Bleus passe-t-il devant cette école devenue un centre de torture? Ce jour-là, sur les écrans de télé, seul le drapeau de l'Argentine et l'euphorie des supporters intéressent les caméras. Après le match, on discute seulement de l'action de la 45e minute, où l'arbitre choisit son camp et offre un pénalty aux Argentins qui l'emportent 2-1, malgré un but de Platini à l'heure de jeu. Les Bleus ne joueront pas le second tour, 3 petits matchs, et puis s'en vont. Parmi les journalistes français encore sur place, il y a Gérard Albouy, du journal Le Monde. Quelques jours après l'élimination de la France, il signe un article intitulé « Football, famille, patrie » où il relate la fièvre nationaliste qui a emporté la population argentine depuis le début de la compétition. Partout, en effet, sur les fenêtres, dans les vitrines, sur les pare-brises ou sur les t-shirts, le drapeau argentin bleu, céleste et blanc est là, flottant, triomphant. Le 20 juin 1978, jour de la fête du drapeau, l'ensemble des chaînes publiques diffuse tous les quarts d'heure des spots à la gloire du drapeau et de l'équipe nationale. Un stade, des jeux, des héros en crampons, l'opium du peuple par excellence. On endort les consciences et tout le monde est content. La douleur des opprimés n'en devient que plus intense. Et comme de bien entendu, le 21 juin 1978, l'équipe d'Argentine obtient sa place en finale. Oui, mais depuis, on en sait un peu plus sur cette incroyable remontée. En effet, à l'époque, les places pour les demi se jouent lors d'un mini-championnat. Et à ce petit jeu, l'Argentine a pris du retard. Alors on s'arrange. Après avoir obtenu l'avantage de jouer en dernier, le pouvoir argentin aurait acheté son dernier adversaire, le Pérou. Selon certains témoignages considérés comme sérieux, Lima aurait accepté la défaite en échange de 35 000 tonnes de céréales, d'une annulation de dettes et d'une livraison d'armes, et aussi de l'accueil de 13 opposants politiques. D'autres journalistes évoquent également le versement d'argent à des joueurs. Et c'est ainsi que l'Argentine se qualifie après un joli 6-1, un score surréaliste en Coupe du Monde. Seule l'équipe des Pays-Bas, la plus belle, la plus talenteuse, peut désormais les stopper. À la veille de la grande finale, le général Videla fait le bilan de sa Coupe du Monde au journal de TF1.
Ce qui est important au premier chef pour nous, pour notre société, c'est d'avoir pu accueillir un si grand nombre de gens du monde entier venus visiter notre pays et assister au triomphe du football. Mais ce que l'Argentine aura gagné par-dessus tout, c'est d'avoir pu montrer à la face du monde que nous sommes un pays organisé, avec un pays uni, une nation qui a un destin sûr et un peuple décidé à cheminer vers la conquête de ce destin.
Le 25 juin 1978, sous le regard de João Havelange, président de la FIFA, le général Videla remet à Daniel Passarella, capitaine de l'équipe de football d'Argentine, cette Coupe du Monde qu'il vient de remporter après une victoire 3-1, obtenue lors des prolongations devant les Pays-Bas. Comme tout au long de la compétition, c'est sous un air de soupçon et d'intimidation que l'équipe d'Argentine remporte ce match devant pourtant la meilleure équipe du monde, pénalisée par un arbitre complaisant au service du pays organisateur. Ce soir-là, la dictature a gagné son pari, celui de devenir le temps d'une compétition le centre du monde, grâce à la FIFA. En 2005, à Buenos Aires, 28 ans après sa disparition, les restes de l'une des sœurs enlevées en décembre 1977 sont officiellement identifiés par des médecins légistes. Déjà condamné en France par contumace pour l'assassinat de ses deux religieuses, Alfredo Astiz, l'ange blond de la mort de l'école mécanique de marine, est condamné en 2011 en Argentine à la prison à perpétuité. Un an plus tard, en juillet 2012, l'ancien dictateur Jorge Rafael Videla est une nouvelle fois condamné à 50 ans de prison lors du procès des bébés de disparus. La justice reconnaît l'existence d'un plan systématique de vol d'enfants d'opposants. En 1978, pendant cette Coupe du Monde, à l'ombre des stades, la terreur règne et montre une fois de plus à quel point le football, immense machine à cash, s'assoit tranquillement sur tous les principes. Des pans entiers de l'histoire de la Coupe du Monde montrent. Ce sport hyper conservateur, qui ne prête qu'aux riches, qui déteste qu'on change l'ordre établi, continue aujourd'hui encore dans cette logique. Alors, que pèseront les atteintes aux droits de l'homme en Russie où se déroulera la prochaine Coupe du Monde face à un but de Müller ou une passe de Verratti? Rien, évidemment. Mais on n'a pas tout vu. Ce serait oublié que 4 ans plus tard, cette même Coupe du Monde se jouera au Qatar, un pays qui n'a aucune tradition de football, mais des poches bien pleines. Ce sport, le football universel, est à lui seul un paradoxe majeur. Capable d'offrir parfois un spectacle extraordinaire et une communion exceptionnelle pour des millions de personnes, il peut aussi incarner toute l'immoralité et l'injustice du monde.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la Coupe du Monde en Argentine avec notre invité Paul Dietschy. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes dans les studios de France Bleu Besançon, je le rappelle aux auditeurs. Vous êtes agrégé d'histoire, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté, d'où votre présence à Besançon. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Je cite « Histoire du football » et « Histoire politique des Coupes du Monde » avec Yvan Gastaud et Stéphane Mourlane. Bien, alors nous l'avons vu dans le récit, la désignation de l'Argentine pour organiser la Coupe du Monde de 1978 a été actée en 1966, quelques jours après un coup d'État. Comment a réagi la FIFA en 76, apprenant un nouveau coup d'État ? A-t-elle été, ne serait-ce qu'un peu gênée aux entournures, ou pas du tout ?
Alors, si on consulte les archives de la FIFA, on s'aperçoit que la FIFA est plutôt soulagée.
Parce que...
Alors, pour quelle raison ? C'est que l'instabilité politique en Argentine, ce que les dirigeants ou certains dirigeants de la FIFA identifient comme le danger du terrorisme, ils ont qu'une peur, c'est qu'il y ait des enlèvements de joueurs, un comité d'organisation locale qui change chaque année pratiquement de président, une valse des dirigeants. Donc c'est quelque chose qui les inquiète beaucoup, et pour eux finalement, avoir un pouvoir fort, c'est la garantie d'avoir une organisation solide. Alors c'est comme ça, c'est certainement un raisonnement cynique, mais c'est le leur. On pourra ajouter aussi que certains de ces dirigeants, Joe Avalanche par exemple, a été le président de la Confédération brésilienne de football dans les années 60 et au début des années 70, donc entretenait de très bons rapports avec le régime dictatorial brésilien. Et puis, par exemple, Neuberger, qui était le président du comité d'organisation FIFA, hein, pas local, mais FIFA, était un Allemand assez conservateur, bon, très marqué par, évidemment, le terrorisme de la fraction Armée Rouge, et lui aussi voyait plutôt d'un bon œil un régime anticommuniste.
Bon, nous l'avons vu, le budget mis en place pour cette Coupe du Monde est astronomique, notamment les dépenses autour de la com cette année-là. On l'avait pas dit dans le récit, je me permets donc de l'ajouter. Coca verse 8 millions de dollars pour devenir le sponsor officiel. C'est la première fois en Argentine que l'organisation de la compétition se professionnalise, comme ça s'internationalise. On passe un nouveau cap dans la mondialisation du football et les affaires.
Oui, c'est assez clair. La Coupe du Monde Argentine, on focalise souvent l'attention, et avec raison, sur la question politique et des droits de l'homme. Mais c'est certainement une Coupe du Monde pivot, dans le sens où il y a de très nombreux intérêts qui se coalisent pour faire des profits en Argentine. Alors, bon, Coca-Cola, ça intervient juste après la signature d'un accord entre la Coca-Cola et la FIFA. Et en quelque sorte, Coca va apprendre le marketing aux dirigeants de la FIFA. Bon, on rencontre cette même évolution un peu plus tard au CIO, par exemple. Il y a aussi l'importance d'Adidas. Et puis, il y a aussi l'importance du rôle de firmes multinationales, notamment allemandes, qui vont faire de gros profits. Hein. Siemens, par exemple, va aider les télés argentines à passer du noir et blanc à la couleur. Bosch va monter un centre de traitement des images, etc., etc., etc. Donc, c'est sans doute vraiment la première Coupe du Monde où une Coupe du Monde peut être une bonne affaire, pas évidemment pour le pays, mais en tout cas pour les grandes entreprises qui sont soit partenaires, soit qui sont des fournisseurs de services et de biens d'équipement.
Alors, je reviens sur la question politique. Déjà, parce que c'est entré dans les mœurs du football et de la FIFA très très vite, on s'en était aperçu avec la Coupe du Monde en 1934 sur les terres italiennes. Hein. L'Italie est gouvernée par un pouvoir fasciste, donc brutal, celui de Mussolini, et apparemment ça se passe très bien avec la FIFA, là encore.
Oui, alors, disons que là, il faut un petit peu nuancer, parce que... Le président de la FIFA à l'époque est Jules Rimet, un Français qui est plutôt démocrate chrétien, qui est très attaché aux questions démocratiques. La seule chose, c'est que les dirigeants de la FIFA sont très sensibles aux marques d'estime, à l'aide que peuvent apporter un certain nombre d'États. Hein, et donc, lorsqu'ils sont accueillis, lorsqu'ils sont traités au rang auquel ils aspirent, ils en sont très heureux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en juin 1934, le Mussolini de juin 1934, ce n'est pas le Mussolini de 1938. C'est celui qui, aux yeux des démocraties, peut encore s'opposer à Hitler, et il va le faire à l'été. Donc, vous voyez, les choses sont... sont un petit peu plus complexes. Et puis, par ailleurs, si on reprend Jules Rimet et ses mémoires, Rimet aime faire un distinguo très net entre ce qui est du sportif et ce qui est du politique. Alors, il dit, par exemple, que le général Vaccaro, qui était le président fasciste de la Fédération italienne, eh bien, son aspect politique n'intéressait pas la FIFA, mais sa personnalité sportive appartenait, évidemment, au monde de la FIFA et du football.
Mais enfin, il est quand même démenti 4 ans plus tard, puisque 4 ans plus tard, il y a une Coupe du Monde en France, que l'Italie remporte aussi. Et là, c'est vraiment l'équipe de l'Italie fasciste qui arrive.
Oui, tout à fait. Il est clair que celle de 34 également se plie aux rituels, mais qui sont des rituels assez généraux dans la société italienne, hein, lever le bras. Mais il est certain qu'en juin 38, les relations sont beaucoup plus tendues entre la France et l'Italie, et que la victoire, dans un environnement qui apparaît dans certaines villes hostiles, est considérée comme une victoire de l'Italie fasciste sur les terres d'une démocratie décadente. Et ça se voit lorsque Giuseppe Meazza, le célèbre Meazza, reçoit la coupe du président Lebrun, le gratifie Lebrun d'un salut fasciste. Donc là, évidemment, l'aspect politique est beaucoup plus présent. Il est clair que c'est une victoire politique, cette victoire-là.
La FIFA ou l'UEFA ont-elles déjà annulé ou refusé une compétition pour raisons politiques ? Apparemment non, vous confirmez ?
Non, de ce point de vue-là, non, jamais. Hein. Même dans les années 90, lorsqu'au Nigeria, on a pendu des opposants, Avalanche, eh bien, ne s'est pas opposé à l'organisation d'un mondial de jeunes. Donc, de ce point de vue-là, disons que là aussi, il faut nuancer, mais la FIFA, en général, a toujours voulu distinguer officiellement le politique du sportif. Ce qui fait que dans les années 30, par exemple, il n'aurait eu qu'un vœu, c'est d'accueillir l'URSS, par exemple. Mmh. Par ailleurs, c'est toujours les règlements sportifs qui ont été appliqués lorsqu'il y a eu des questions de transfuges, de réfugiés, par exemple, pour les Hongrois en 1956. Ceci dit, à partir des années 60, il y a quand même une petite inflexion. Hein, c'est que dans les statuts est introduite une clause contre la discrimination religieuse et raciale, ce qui fait qu'en 76, la Fédération sud-africaine est exclu définitivement pour apartheid. Et puis, la Coupe du Monde qui a été organisée en 2010, officiellement, on doit rendre grâce à Mandela, à ce combat pour l'égalité. Et quelqu'un comme Avalanche, par exemple, en même temps, il est évidemment un soutien de Videla, clairement. Mais en même temps, c'est le porte-parole du tiers-monde. C'est lui qui ouvre les portes des Coupes du Monde aux fédérations asiatiques, aux fédérations africaines. Donc vous voyez, les choses sont parfois un petit peu plus complexes.
Et bien sûr. Alors, complexe aussi la campagne de boycott initiée en France et qui a fait tache d'huile dans plusieurs pays. Alors à la question, est-ce un succès ou un échec? Évidemment, dans la mesure où la Coupe du Monde s'est déroulée et que tout le monde y est allé, c'est un échec. Mais est-ce que c'est pas un succès non plus dans la trace que ça a laissé sur les consciences et sur la capacité des citoyens à dire, ok, il y a du sport, c'est un grand événement mondial, mais il y a aussi l'éthique.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a quand même un petit peu terni la participation de l'équipe de France, même si ceux qui sont à la tête du COBA ne sont pas représentatifs de l'immense majorité de l'opinion publique. Il y a un professeur d'éducation physique, Jean-Marie Brome, qui est très minoritaire dans cette profession et qui communique dans une sorte de fraudo-marxisme. Il y a l'extrême-gauche, hein, la fin de la comète de mai 68. Donc, ils ne sont pas représentatifs, évidemment, de l'état de l'opinion publique, mais quand même, hein, et le reportage que vous avez diffusé ou les reportages que vous avez diffusés le montrent bien, c'est que cette question intervient de manière récurrente, les footballeurs sont questionnés, et surtout je crois que la Coupe du Monde a mis en lumière évidemment cette répression épouvantable qui a lieu en Argentine, et peut-être que si l'Argentine n'avait pas été désignée pour organiser cette Coupe du Monde, eh bien cette lumière n'aurait pas été aussi intense évidemment sur les méfaits de la junte de Videla.
C'est vrai, on peut le voir aussi comme ça. Alors au sein de l'équipe de France, c'est également, il y a eu un débat. Alors, chez les footballeurs, il y a des gens qui pensent à droite, il y a des gens qui pensent à gauche, il y a des gens qui pensent à rien. Dominique Rocheteau, lui, fait partie de ceux qui pensent sur la société, et il en parle alors plus tard, hein, le 11 juin 2014, sur France Culture.
78, moi je reçois, bon, du fait de mes déclarations, de mon engagement un peu politique, j'ai reçu beaucoup de lettres, quoi, d'informations pour boycotter. Bon, il est hors de question de boycotter cette Coupe du Monde. Par sur un plan sportif, pour l'équipe de France, ça fait très longtemps que l'équipe de France n'a pas été en Coupe du Monde. On va aller dans un pays de football, en Argentine. Et donc, moi, je m'étais dit, moi et puis d'autres, hein, j'étais pas le seul, qu'on pourrait peut-être sur place en parler de ce qui se passe, dire, en parler à travers les médias. Donc, il y a une rencontre avec Bernard-Henri Lévy qui est venu en Argentine, qui est venu en rencontre à l'ambassade de France. Il nous propose de venir dans notre centre d'entraînement pour parler avec nous. Donc, organisation de petites réunions. Tous les jours viennent pas, il y a quelques joueurs qui viennent. Hidalgo est là. Mais en fait...
Ça prend pas.
Et puis nous, on se dit, on essaiera au fur et à mesure de la Coupe du Monde, lors des matchs, de dire un peu de...
Que vous dénonciez.
Dénoncer, c'est un grand mot.
Il y a eu le brassard noir. Vous avez tenté, vous avez suggéré collègues sur le terrain de porter un brassard noir.
Mais je veux pas me désolidariser des autres. Ils ne savaient pas ce qui se passait exactement.
Mais par manque de curiosité ou par absence de conscience politique.
Absence de conscience politique aussi, sûrement. Donc voilà, ça s'est très vite étouffé.
Voilà, au sein de l'équipe de France, le choix de ne rien dire, de ne rien faire a finalement primé. Est-ce que cette question de boycotter, de faire un geste, a été posée dans d'autres équipes? Je crois que trois joueurs brésiliens, et puis des joueurs suédois également, ont tenté de rencontrer les femmes de la place de Mai. Est-ce qu'il y a eu des consciences politiques ailleurs?
Il y a eu quelques joueurs brésiliens, dont Paulo César, qui avait joué à l'Olympique de Marseille, ont manifesté justement leur solidarité avec les victimes de la répression. Les joueurs suédois, venant évidemment de la social-démocratie suédoise, c'était logique. Il y a aussi quelques joueurs allemands, Paul Breitner, qui avait la réputation d'être maoïste, une réputation extrêmement surfaite, mais qui s'est également manifesté. Pour les Hollandais, il y a une légende qui court disant que Johan Cruyff aurait refusé d'aller en Argentine pour protester. Les choses sont un peu plus complexes et à la fois...
C'est un problème personnel.
Voilà,
avec son épouse. Oui, exactement.
Oui. Donc, il faut évidemment relativiser. Mais pour en revenir, si on peut revenir rapidement à Rocheteau, je trouve que c'était un geste extrêmement courageux de sa part, parce qu'il était très jeune, il était à l'aube de sa carrière. Et puis, en même temps, son aura d'ange vert, comme on l'appelait, lui permettait aussi de dire des choses que ses camarades, finalement, sans doute plus par indifférence que par conscience politique, n'ont pas voulu affirmer.
En Argentine, derrière les matchs et l'euphorie des supporters, la situation est très tendue, notamment pour les journalistes. Est-ce qu'il y a eu des incidents avec eux, des menaces contre les reporters et journalistes?
Alors, disons que il y avait une telle présence policière, il y a le régime d'accréditation de la FIFA, dès en amont, et ça on le retrouve dans certaines archives, notamment de la FIFA, il y a le comité d'organisation argentin tente de faire venir des journalistes pour montrer que tout va bien, l'ordre règne à Buenos Aires. De ce point de vue-là, certainement, ces journalistes ont pu se sentir suivis, surveillés, les choses n'étaient pas faciles. De même que, finalement, les joueurs qui disputaient des matchs contre l'équipe d'Argentine sentaient quand même une pression extrêmement forte sur eux, à la fois du public, mais aussi, lorsque vous avez un environnement très policier, il n'est pas facile de montrer finalement une liberté de parole.
On se souvient aussi des ambiances, au-delà de ça d'ailleurs, extraordinaires dans les stades argentins, ces milliers de petits papiers que les supporters envoyaient sur la pelouse, c'était très impressionnant. Alors durant la compétition, un autre dossier a également été soulevé par les partisans du boycott, celui de l'antisémitisme réel ou supposé de l'État argentin à l'époque. Qu'en était-il?
Alors, c'est vrai que Buenos Aires est une des capitales du monde où la communauté juive est la plus importante, avec, c'est comparable des villes comme Tel Aviv, Paris et Brooklyn. Oui, il y a un antisémitisme qui est lié aussi au fait qu'une partie des jeunes de cette communauté participent à la résistance contre l'État argentin. Et puis, il y a aussi la prégnance, l'importance, évidemment, des nazis qui sont venus se réfugier en Argentine. Et en 1976, on est seulement 23 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui est assez fort qui est relativement prégnante dans ces années-là.
On a l'impression quand même que dès Videla, et on verra ça avec Galtieri 4 ans plus tard lors de la guerre des Malouines, on a l'impression qu'ils ont quand même conscience, ces militaires de la junte, que leur pouvoir est fragile. Alors ils cherchent des chemins de traverse comme la guerre des Malouines qui était là pour le coup suicidaire, mais la Coupe du Monde semble entrer dans cette logique-là. L'organisation de la Coupe du Monde à la fois pour détourner le regard ou pour tourner le regard vers une situation qui n'est pas la vraie situation. C'est un outil, mais ça n'a rien changé finalement.
Absolument. D'ailleurs, il y a les travaux de jeunes historiens argentins qui essaient de travailler sur cette mémoire de la Coupe du Monde, et ils montrent que finalement, il y a eu une sorte d'unanimité dans une grande partie de la population argentine sur la victoire. Beaucoup de gens étaient heureux. Mais pourquoi ils étaient heureux? Sans doute parce que les matchs, les soirs des matchs où jouait l'Argentine, c'était un des rares moments de liberté. On pouvait s'exprimer, on pouvait danser, on pouvait sortir dans la rue sans être surveillé. Donc, on est là dans ce domaine d'une, finalement, d'une émotion très éphémère qui est celle du sport. Et on a vu ce qu'il en a été, par exemple, en 1998 en France, si on peut comparer les deux cas. Ce qui fait que la Coupe du Monde a offert un petit moment de distraction, un petit moment de bonheur, mais n'a en aucun cas permis de raffermir le régime. Et la meilleure preuve, évidemment, c'est 4 ans plus tard, les Malouines, qui est une sorte de fuite en avant des généraux, qui se termine en 1983, évidemment, par le début de la transition et le retour à la démocratie.
Dernière question, Paul Dietschy. Est-ce qu'il y a eu d'autres Coupes du Monde sous pression comme ça de menaces terroristes, d'attentats?
Oui, alors il y en a une évidemment en 1974, parce que c'est en Allemagne, 2 ans après Munich.
Ah oui.
Et là, la Coupe du Monde est en véritable état de siège. L'équipe du Chili, qui représente encore une dictature criminelle, qui s'est qualifiée par forfait de l'URSS, est suivie par des troupes, par des militaires, des policiers. Donc là, c'est une Coupe du Monde qui est véritablement sous tension à cause de la fraction armée rouge, mais aussi du terrorisme palestinien. On peut dire aussi qu'il y a le championnat d'Europe en Italie en 1980 qui se déroule un peu dans ces conditions. Mais là,
oui,
on est un peu dans la configuration actuelle, puisque ce sont les hooligans qui s'illustrent.
Bien, merci infiniment Paul Dietschy pour tous vos éclairages. Je rappelle le titre du livre que je conseille à nos auditeurs de lire, Histoire politique des Coupes du Monde. Merci, au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la Coupe du Monde en Argentine, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.